donc comment Aristote, qui est le premier à essayer de comprendre l'être de la relation. Si Aristote peut être considéré donc comme le philosophe de la substance et de l'acte, il est aussi du relatif. Il accorde une attention très particulière à ce que représente cette modalité particulière de l'être. C'est en face des sophistes et des platoniciens, des premiers platoniciens, qu'Aristote élabore cette propre théorie du relatif. À ces derniers, il reproche à la fois d'exalter le relatif au point de le considérer comme un absolu, ce que nous avons vu déjà chez Platon, et ça va augmenter chez les néoplatoniciens, en en faisant une forme antérieure à ce qui est, et de ramener le relatif à l'inégal et même au non-être. Pour expliquer la multiplicité des formes, cette double critique d'Aristote met en lumière l'insuffisance radicale du platonisme en ce qui concerne le relatif. C'est peut-être un des aspects sur lesquels on doit le mieux comprendre le néoplatonisme, par le point de vue de la participation et par le point de vue de la dialectique. En ce qui concerne donc le relatif, en ce qui concerne cette philosophie qui au fond ne dépasse pas la forme, n'arrive pas à pouvoir comprendre exactement ce qu'est le relatif. Alors, c'est un des aspects sous lequel on doit essayer justement de comprendre le relatif. Si vous restez uniquement au niveau de la forme, vous ne pouvez pas saisir parfaitement ce qu'est le relatif. Je crois que c'est ça qui a été le regard, l'intuition d'Aristote par rapport au relatif. Faire du relatif une forme, de la relation une forme, c'est s'empêcher de comprendre ce qu'il y a de caractéristique au relatif. Alors, c'est donc le relatif qui va montrer que la philosophie de l'être ne peut pas rester uniquement dans l'ordre de la cause formelle. On verra ça progressivement, mais tout de suite, on peut dire ça dès qu'on voit la critique qu'Aristote fait aux sophistes, qui ramène tout relatif. Pour les sophistes, il n'y a pas d'absolu. Et d'autre part, aux disciples de Platon, qui tout de suite intègre le relatif dans la dialectique, à l'intérieur de la dialectique. On voit donc comment, si l'on assimile le relatif à une forme, on est conduit à cette contradiction de le poser à la fois comme être en soi et comme non-être. On va comprendre cela. Des lieux très importants pour comprendre ce que c'est que le relatif chez Aristote, c'est dans les catégories. Donc, dans les catégories, après avoir défini la substance au sens le plus propre, c'est-à-dire la substance première, comme ce qui n'est ni énoncé en dépendance d'un sujet, ni dans un sujet. sur l'analyse du langage présente ainsi la catégorie du relatif. On appelle relatif donc le prosti. Bien, regardez ça. réciprocité parfaite. Qu'il s'agisse des relatifs purs, imparfaitement dans le cas des relatifs qualité. Voilà donc la première propriété spécifique des relatifs comme tels. D'être dit faire leur corrélatif. À cette propriété des corrélatifs s'ajoute celle qui concerne des opposés relatifs, puisque toute corrélation implique une opposition relative. Donc, et c'est ça qui est très curieux, c'est que le relatif va impliquer le point de vue de l'opposition. D'être corrélatif. Alors, vous voyez, pour la dialectique, ça qui est intéressant à voir, c'est que le relatif engendre la dialectique. Puisqu'il est corrélatif, il implique l'opposition. Juste l'inverse de la substance. La substance, comme telle, s'oppose à la dialectique. C'est pour ça que progressivement, une pensée dialectique évacue la signification de la substance. Je crois que c'est un des aspects qui est très intéressant dans Hegel, c'est de voir, il parle encore de substantialité. Et la substance comme telle est évacuée. On ne peut plus avoir de substance dans une pensée purement dialectique. Puisqu'elle est toujours relative à un moment donné. Les termes qui s'opposent comme des relatifs sont eux-mêmes, dans tout leur être, dits leur opposé. Le double et le double d'autre chose. La science s'oppose à l'objet connaissable, et la science comme l'objet connaissable sont énoncés en dépendance de leur opposé. Mais alors qu'on distinguait deux types de corrélatifs, réciproques ou non, il n'en va pas de même pour les opposés relatifs, car ils n'expriment que la manière dont certaines réalités sont séparées. Alors que les corrélatifs expriment au contraire la manière dont ces réalités s'appellent mutuellement. Donc le corrélatif est propriété du relatif. La quatrième propriété des relatifs, les relatifs comme tels sont par nature simultanés. Et d'autres liens peuvent intervenir entre les relatifs et supprimer cette simultanéité. L'objet connaissable est antérieur à la science, et sa disparition entraîne celle de la science, sans que l'inverse soit vrai. La simultanéité naturelle est donc bien une propriété des relatifs comme telle. Il y a l'aspect de la simultanéité comme corrélatif aussi. Au terme de cette analyse, vous voyez qu'Aristote insiste beaucoup dans les catégories. Il y a la substance, et puis c'est très vrai que la qualité aussi est très développée dans les catégories. Mais le relatif est particulièrement développé. Et on comprend très bien que le langage me met en présence d'une manière tout à fait particulière du relatif, parce qu'il le thématise. Le langage montre ce qu'est le relatif. Est-ce qu'il y aurait En ce qui concerne, donc, au cours de cette analyse, il s'est avéré que les termes qualitatifs et quantitatifs pouvaient être regardés comme des relatifs. Aristote, qui ne perd pas de vue les platoniciens, va donc poser au terme de sa recherche une dernière question. Et ça, c'est tout à fait propre à l'enquête qu'il fait dans les catégories. Les termes substantiels peuvent-ils eux aussi être regardés comme des relatifs? Mais, je viens de vous dire, dans le langage, la substance et le nom et devient sujet. Donc, capable de recevoir ces choses. Ça, c'est le langage. Alors, est-ce que le langage trahit la pensée? Est-ce qu'il trahit la réalité? Dans la réalité, est-ce que la signification d'une réalité substantielle peut-elle être relativisée? Je peux relativiser la quantité, je peux relativiser la qualité, puis-je relativiser la substance? C'est la question qui se pose, hein, dans les catégories. En ce qui concerne les substances premières et leur partie intégrante, il est clair que ce n'est pas possible. Ici n'en va pas de même des substances secondes, ou plus exactement de leur partie, en tant que partie. La main de l'homme, la tête de l'homme. Donc je relativise les parties de la substance. Aristote propose alors une nouvelle définition du relatif pur, qui a l'avantage d'intégrer la simultanéité de la connaissance des termes relatifs, puisque la connaissance du relatif, ainsi définie, donne immédiatement la connaissance de son correlatif. Les relatifs sont ceux pour qui l'être consiste dans le rapport à quelque chose. Alors, ça, c'est l'être. Alors, c'est curieux. Dans les catégories, ça va te faire poser un tas de problèmes et un tas d'interprétations différentes. Vous avez le legetai et le toinein. Alors, vous regardez d'abord le relatif par le legetai, ce que je viens de dire. Puis, pour résoudre la dernière question, est-ce que le relatif va accompagner la substance? Ou est-ce que le relatif ne peut pas accompagner la substance? Y a-t-il dans la substance quelque chose d'absolument irréductible au relatif? Alors, à ce moment-là, il se pose la question de l'être du relatif. Mais prenez la table des catégories. Vous commencez à la connaître, j'espère. Des 10 catégories. Et voyez que le relatif peut envelopper les attributions, la difficulté. Alors, on se pose la question, quel est l'être du relatif? Oui, je crois que c'est très important pour saisir la signification des catégories. Ce petit passage que fait Aristote, que saint Thomas a noté, quand on verra du reste, parce que ça montre bien que dans les catégories, Aristote dépasse complètement le point de vue du langage, puisqu'il se pose quel est l'être du relatif. Et on comprend très bien que c'est bien le relatif qui peut seul me faire poser cette question. Puisque dans toute attribution, je trouve quelque chose de relatif. Et si vous poussez un tout petit peu, vous comprendrez ça tout de suite, que toutes les attributions impliquent l'universel. Or, l'universel, c'est un être relatif. Donc, le langage, par le point de vue de l'universel, est enveloppé du relatif. C'est cette question du relatif qui peut seul montrer qu'il ne peut pas y avoir de philosophie du langage. C'est ça qui est intéressant. Mais c'est très subtil, hein, ça je suis tout à fait d'accord. Le relatif est une subtilité prodigieuse. C'est très très difficile à bien saisir. Alors, vous relirez, et ça vaut la peine, il faut le faire, même en première année. Je vous ai dit, en première année, il faut lire les catégories d'Aristote. Pas seulement les lire une fois, mais les lire deux fois, et les lire trois fois. Faites l'analyse du relatif, du prosti, dans les catégories d'Aristote. Une fois qu'on voit qu'Aristote fait dans les catégories, dans les catégories elles-mêmes, il fait cette double réflexion du legetai et du to einein, et c'est par rapport au relatif, parce que le legetai ne suffit pas pour saisir ce que c'est que le relatif à l'état pur. Il est maintenant possible de répondre à la question posée. Les parties des substances secondes ne sont pas proprement des relatifs, puisque la connaissance de la main ou de la tête ne nous donne pas immédiatement la connaissance de leur sujet. Donc ce n'est pas corrélatif, ce n'est pas simultané. Il y a donc une irréductibilité totale des termes relatifs aux termes substantiels. Alors qu'on passe facilement des termes quantitatifs, par exemple, aux termes relatifs. C'est très grec, ça, hein? C'est très intéressant. Pour bien comprendre la signification de cette nouvelle définition du relatif, donc cette nouvelle définition que je vous ai dit tout à l'heure, les relatifs sont ceux pour qui l'être, to einein, consiste dans le rapport à quelque chose. La quidité du relatif, c'est de ne pas se tenir par elle-même, de toujours avoir la nécessité d'un autre. Il est pros. Il a toujours besoin d'une béquille. Mais la béquille lui donne son être. Quand vous appuyez sur une béquille, la béquille sert d'instrument. Et vous n'êtes pas relatif à la béquille. Tandis que le propre du relatif, c'est d'être entièrement relatif à l'autre. Alors, voyez, pour la question de l'instrument, c'est très intéressant aussi. Parce que l'instrument est relatif à quelque chose de premier. Tandis que le prod du relatif, c'est d'être simultané à l'autre. Il n'est pas antérieur. Je m'appuie sur toi. Dès que vous dites je m'appuie sur toi, vous n'êtes pas relatif. Vous êtes relatif momentanément. Mais vous n'êtes pas relatif puisque vous appuyez. Vous utilisez l'autre. Utiliser quelqu'un, c'est absorber l'autre. Être relatif, c'est se perdre dans l'autre. Donc c'est ne pas savoir d'être en dehors de l'autre. Mais la subtilité de la chose. Et ça, pour le langage, c'est extrêmement intéressant de voir le passage du legetai au toinein. Pour bien comprendre, alors j'insiste un peu, parce que je crois que tout est là. C'est ce passage des catégories qui est très important. Pour bien comprendre la signification de cette nouvelle définition du relatif, il faut la saisir en fonction de l'aporie dont elle constitue la réponse. La première définition, en effet, est incapable de déterminer dans quelle mesure les parties des substances secondes sont des relatifs. Munis de cette seule définition, on peut seulement se demander si les parties des substances secondes sont attribuées à leur tout au titre de terme relatif. Et dire que, parce que la tête est la tête de l'homme, elle est toute relative au tout dont elle fait partie. C'est là une conclusion qu'Aristote ne peut accepter, étant donné la distinction qu'il fait entre métaphysique, entre accident relatif et substance. Est-ce que la tête est substance ou est-ce que la tête est accident ? Est-ce qu'une partie essentielle est un accident ? Ou est-ce qu'une partie essentielle est en partie est accident ? Là, vous voyez, si je fais de la partie essentielle un accident, il n'y a plus que des accidents. C'est très très important pour toute la structure de la chose. Autrement, vous tombez dans la relativité absolue. C'est par là qu'on voit comment on peut glisser dans un relativisme absolu. Puisque vous découpez, et tout est relatif. Vous voyez pourquoi la connaissance scientifique qui mesure en divisant toujours, tombe dans un relativisme absolu. Et ça, c'est donné là. Aristote le dit, qu'une connaissance de mensuration conduit à un relativisme absolu. C'est très intéressant, oui, parce que c'est. Je vous dis, si vous voulez comprendre la pensée moderne, il faut à tout prix comprendre ce que c'est que le prédicament relatif. Une fois que vous avez compris ce que c'est que le prédicament relatif, vous comprenez la pensée moderne. Parce que. Et pour nous, ça nous aide énormément à comprendre ce que c'est que la substance, oui, en opposition. D'une certaine manière, la substance résiste au relatif, mais seule la substance résiste au relatif. Tout le reste est dans le relatif. La qualité elle-même ne peut pas résister. C'est pour ça que si Platon est une philosophie de la forme, donc de la qualité, Platon ne peut pas résister. La dialectique de Platon ne peut pas résister au point de vue relatif. Et tombe dans une relativité absolue. Alors il faudra l'un pour échapper au relatif. Mais c'est plus la substance, c'est l'un. Or l'un, c'est négatif. Ce qui n'est pas divisé. Donc si ce n'est pas divisé, la négation est première. Ah, vous comprenez comment? Si la négation est première, comment dans la modernité, la négation sera avant l'affirmation? C'est contenu dans le néoplatonisme. Je dis, c'est très subtil, relatif. Mais quand on peut le saisir, on voit comment c'est le relatif qui nous conduit à tout ce que nous disons aujourd'hui en philosophie. Donc là, on ne perd pas son temps à chercher exactement la différence du legetai, du toinai, ce qui est dit et ce qui est. Et c'est à propos du relatif que vous voyez la nécessité de passer du legetai au toinai. Et que le legetai ne recouvre pas le toinai, qui a entre les deux un abîme. Alors voyez qu'en faisant ça, Aristote s'oppose à Parménide. Pour Parménide, le legetai, le toinai, s'identifie. Dans la pensée moderne, le legetai et le toinai s'identifient. Le relatif m'empêche d'identifier les deux. Si je veux comprendre ce qu'est le relatif, il me montre l'abîme qui existe entre les deux. La différence de la nouvelle définition consiste en ce qu'elle s'attache non plus à l'analyse de l'attribution des termes relatifs, mais à ce qui caractérise l'être même des relatifs, le Toeinheit, l'être même des relatifs. On est donc passé de la définition générique des termes relatifs à la définition propre des relatifs pris en eux-mêmes et de leur mode spécifique d'être. Oui. Donc là, on voit bien que les catégories ne peuvent pas se ramener simplement au langage, ne peuvent pas se ramener seulement à la grammaire. Ou bien alors, il faut dire que dans les catégories, le relatif est en dehors des catégories. Or, pas du tout. Le relatif est dans les catégories et explique toutes les catégories. Mais montre que le legetai comme tel ne suffit pas. Il n'a pas d'intelligibilité par lui-même. Muni de ce carême, donc, dans cette définition, l'être du relatif apparaît si lié à son corrélatif. Connaissant, on connaît du même coup le corrélatif. Si je te connais, je me connais. C'est ça que dit le relatif. Si je te connais, je me connais. Mais c'est toi que je connais en premier lieu. Je suis vers toi et non pas vers moi. Donc, je ne peux me connaître qu'en te connaissant. Ça, c'est le propre du relatif. Oui, alors vous allez dire, c'est l'humilité suprême. Je disparais devant toi. Et j'accepte de disparaître devant toi parce que je ne suis que si je disparais devant toi. Mais essayez de comprendre ça de cette manière un peu psychologique, mais qui nous fait très bien comprendre ce que c'est. Qui nous aide à comprendre ce que c'est que le relatif. L'être relatif, c'est celui qui disparaît dans l'autre. Il y en a une résistance, hein, faut pas oublier. On a une résistance formidable. On ne veut pas le relatif. L'ouverture du cœur, hein. Qu'est-ce que c'est? On a tellement peur de se dissoudre dans le relatif. C'est important de comprendre ça au plan métaphysique, vous voyez. Ou alors vous dites le relatif n'existe pas. L'être du relatif apparaît si lié à son pas relatif. Qu'en le connaissant, on connaît du même coup le corrélatif. Muni de ce critère, on se demande donc, en ce qui concerne les parties des substances secondes, si leur connaissance procure la connaissance immédiate de leur tout. On est donc passé du problème de l'attribution à celui de la signification, qui porte sur ce qui est, sur ce qu'est le relatif. Autrement dit, on est passé de l'attribution générique à la connaissance quantitative, donc la signification du relatif. La connaissance quantitative, c'est la signification de ce qui est. Donc, voyez, ça, c'est très curieux. Lisez attentivement les catégories d'Aristote. Vous verrez qu'à l'intérieur, il y a tout d'un coup cette perspective différente. Le legetai ne me suffit plus pour comprendre ce que c'est que le relatif. Vous voyez, alors, il y avait déjà ça, il ne faut pas l'oublier. Pour la substance, on avait dit substance première, substance seconde. Donc, la substance seconde seule est attribuée. La substance première résiste à l'attribution. Pour le relatif, on voit quelque chose d'analogue, mais l'inverse. Parce que déjà dans la substance, je dépasse les guetailles. Puisqu'il y a la substance première et la substance seconde. Et la substance première, c'est ce qui n'est pas attribué. Lorsqu'il s'agit du relatif, je regarde d'abord le guetaille. La substance seconde, si j'ose dire analogiquement. Je regarde d'abord les guetailles et je vois que les guetailles ne me permet pas de comprendre parfaitement ce que c'est que le corrélatif. Un être qui n'est que corrélatif. Un être qui n'est que pros. Extrêmes, substance et relatif. Oui, qu'à la signification du langage. Et la signification du langage renvoie à l'acuité, qui renvoie à l'être. Qui est l'être, plus exactement. L'acuité, c'est l'être. C'est l'être qui fonde le point de vue de la signification. Et ceci, je le vois du côté de la substance, et je le vois du côté du relatif. C'est pour ça, vous voyez, vous comprenez peut-être maintenant pourquoi, au plan métaphysique, je prends tout de suite les deux extrêmes. Les deux extrêmes de ce qui est. Ce qui est se présente à moi comme l'absolu. Ce qui est se présente à moi comme l'éclatement de l'absolu. L'intase et l'extase. L'intase, la substance. Je m'enracine. Un être substantiel s'enracine. Il refuse le contact des autres. Je me suffis à moi-même. L'autarcie de l'être. Je me suffis à moi-même. Les autres sont des imbéciles. On le dit pas, mais c'est ce qu'on. C'est la réalité. Parce que tous les autres, je ne saisis pas leur substance. Je saisis ma substance. Moi, je saisis ma substance. Ce qui est assommant avec les autres, c'est que je saisis leur apparence. Je saisis leur substance. Il faudrait bien donner la main à la substance de mon voisin. Es-tu vraiment un être substantiel? Tu m'apparais comme un être uniquement accidentel. Et tous ces accidents, c'est assommant. C'est prodigieusement assommant. Je voudrais te rencontrer, toi, dans ton être substantiel. Mais tu peux pas, parce que mon être substantiel, il est isolé. Je suis seul dans ma substance. Comment veux-tu te rencontrer? Comme tu es seul dans ta substance. Ben, il y a l'ipsolipsisme. Si on essaie de creuser ça, on voit cette chose très radicale de la substance. Puis alors, juste l'inverse. Il y a en moi, dans mon être, il y a le relatif. Celui qui